Bonjour à tous, c'est Laurent Neumann, bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des Juristes en partenariat avec BFM. Quid Juris, c'est toute l'actualité de la semaine décryptée à travers le prisme du droit, un podcast préparé avec Camille Sarrazin. Vous écoutez le 99e épisode de Quid Juris. Et l'actualité cette semaine, c'est le séisme de l'affaire Epstein qui n'en finit pas de provoquer des répliques dans toute l'Europe avec l'arrestation la semaine dernière de l'ex-prince Andrew, le frère du roi Charles III, et puis celle de Peter Mandelson, l'ex-ambassadeur britannique aux États-Unis, relevé de son poste d'ailleurs par le Premier ministre Keir Starmer avant de quitter le parti travailliste, et puis des répliques aussi en France, où la procureure de Paris, Laure Bécaud, vient d'ouvrir deux enquêtes cadres et invite désormais les victimes potentielles du criminel sexuel Jeffrey Epstein à témoigner ou à porter plainte. Une affaire qui agit donc comme une bombe à fragmentation, au point que désormais, cinq magistrats parisiens enquêtent sur d'éventuels faits commis en France ou dont les victimes ou auteurs seraient français. Pour tout comprendre de cette affaire tentaculaire, deux invités aujourd'hui dans Quid Juris. Thomas Herrmann, d'abord, bonjour.
Bonjour, Laurent Herrmann.
Vous êtes maître de conférence à l'université Panthéon-Sorbonne, spécialiste de droit privé de sciences criminelles et membre de l'IRJS, l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, à distance, maître Nathalie Buquet, bonjour.
Bonjour, Laurent.
Vous êtes avocate pénaliste, mais aussi spécialiste du droit de la famille. Vous avez plaidé de nombreux dossiers criminels et votre expertise nous intéresse aujourd'hui, puisque vous êtes notamment l'avocate de l'association Innocence en danger et qui était au début de cette affaire. On va en parler. Donc, merci encore une fois à tous les deux de répondre aux questions de Quid Juris et de faire la pédagogie de cette affaire extrêmement compliquée. Jeffrey Epstein, lui, quelques semaines après son arrestation, a été retrouvé mort en prison. C'était le 10 août 2019. Il n'est donc plus au cœur de l'enquête américaine, l'action publique étant logiquement éteinte à son nom. Contre, mais aux quatre coins du monde, la justice tente désormais de savoir si Epstein a pu bénéficier de complicité dans le cadre de ses activités pédocriminelles ou dans le cadre de la commission de délits financiers. On va donc prendre les choses dans l'ordre et essayer de tout comprendre. Et d'abord, cette annonce de la procureure de Paris, Laure Bécaud, qui, à la faveur de nouveaux signalements, de nouvelles plaintes, à la faveur aussi de la publication de ces 3 millions de documents par le département de la justice américain, a demandé, je le disais, à cinq magistrats référents d'analyser d'éventuelles infractions à caractère sexuel ou à caractère financier et a donc décidé d'ouvrir deux enquêtes cadres. Éclairez ma lanterne, Thomas Herrmann, c'est quoi une enquête cadre ?
Alors, cette expression d'enquête cadre n'est pas prévue dans le code de procédure pénale. Elle ne correspond pas à une notion juridique. Il faut aussi signaler, en tout cas à ma connaissance, que cette expression n'est pas couramment employée dans la pratique judiciaire et notamment dans la pratique des parquets. Alors, qu'est-ce que a voulu dire la procureure de Paris en employant cette expression singulière d'enquête cadre ? Je crois qu'il faut comprendre qu'en réalité, il ne s'agit pas à ce stade d'enquêter sur des faits précis, mais plutôt d'établir un dispositif visant à organiser le travail des procureurs et des enquêteurs afin de combiner au mieux le recueil des plaintes qui pourront être déposées à l'avenir avec le travail d'exploitation des documents publiés par le département de la justice américain le 30 janvier dernier.
Alors, elle dit, Laure Bécaud, j'ai désigné un magistrat référent dans chaque section. Il y a deux sections financières et trois sections en charge des infractions sexuelles. La première enquête cadre, porte sur l'infraction de traite des êtres humains et la seconde se concentre sur les infractions financières de blanchiment, d'atteinte à la probité, de fraude fiscale. Deux thèmes séparés, donc, Nathalie Buquet. Au fond, quand elle dit enquête cadre, ça porte bien son nom. C'est le cadre d'une enquête qui redémarre en réalité.
Alors, c'est pas tant que c'est une enquête qui redémarre. Hein. Cette notion cadre, elle est très souvent utilisée quand on veut traiter un phénomène global. Ce terme, cet outil, en fait, c'est plus une méthode. C'est notamment utilisé dans les affaires de cold case ou en matière de santé publique. Donc, vraiment, je pense que c'est une méthode qui est utilisée par le parquet de Paris. Qui vise à enquêter, si vous voulez, dans un cadre très large, qui permet, dans une même enquête, de regrouper plusieurs signalements ou plaintes, d'élargir le périmètre des investigations, d'identifier d'éventuelles ramifications ou complicités et d'assurer une coordination judiciaire cohérente.
Alors, juste un point, Nathalie Bucquet, parce que certains commençaient à critiquer le parquet. On s'en souvient, il y a quelques jours, quand ces documents ont été mis sur la place publique, et certains disaient que le parquet mettait du temps à répondre. Mais pour le coup, c'est assez normal qu'il ait pris ce temps-là pour créer ce cadre juridique ou judiciaire.
Alors, moi, je pense qu'effectivement, le parquet de Paris, là où il a commis une erreur, c'est peut-être de ne pas plus rapidement dire qu'il s'interrogeait sur le cadre dans lequel il allait intervenir. Le parquet de Paris, je pense, a pris le temps d'identifier qu'il y avait bien une compétence française, avait besoin d'identifier le cadre dans lequel il pourrait investiguer. Donc, je pense que la véritable critique, c'est de n'avoir donné absolument aucune information pendant plusieurs jours, laissant penser que finalement, la France ne s'intéressait peut-être pas encore à cette procédure. Mais si on s'attache à une analyse plus juridique, plus judiciaire, la temporalité du parquet, qui n'est pas celle des médias, finalement n'est pas si surprenante. Maintenant, c'est vrai que j'étais la première à déplorer l'absence totale de réaction.
Alors, vous avez employé un mot extrêmement important qui est le mot de compétence. Pour la bonne compréhension de tout, je voudrais qu'on évacue tout de suite cette question de la compétence du parquet de Paris. Le parquet de Paris est compétent quand les victimes sont françaises ou quand les auteurs des crimes et délits sont français, y compris quand les faits sont commis à l'étranger. C'est bien ça, Thomas Herman ?
Oui, c'est bien ça, mais il faut rappeler que le code pénal français distingue principalement deux situations. Première situation, l'infraction a été commise sur le territoire français, ou du moins peut être réputée commise sur le territoire français. On pourra revenir sur cette notion d'infraction réputée commise sur le territoire français. Dans ce cas, les juridictions pénales françaises sont compétentes au titre de leurs compétences territoriales, et elles le sont, quelle que soit la nationalité des auteurs et des victimes. Deuxième situation, l'infraction a été commise à l'étranger, hors du territoire de la République française. Dans ce cas, les juridictions pénales françaises sont compétentes sous certaines conditions, soit lorsque la victime est de nationalité française, c'est ce qu'on appelle la compétence personnelle passive, soit lorsque l'auteur est de nationalité française, c'est ce que l'on appelle la compétence personnelle active. Je me permets de faire ce rappel parce que dans l'affaire Epstein, les deux compétences, territoriales et personnelles, pourraient trouver à s'appliquer.
Attendez, je vous interromps. Prenons un exemple très concret. Tous ceux qui nous écoutent l'ont entendu. Jack Lang, Caroline Lang, la fille de Jack Lang. Une enquête est ouverte par le parquet national financier pour blanchiment de fraude fiscale via une société immatriculée aux îles Vierges, la société britannique, a été créée à 50-50 entre Jeffrey Epstein et Caroline Lang. Elle est dotée d'1,4 million de dollars. Le nom de Jack Lang apparaît dans les statuts. Puisqu'ils sont français, la justice française est donc compétente, c'est bien ça, même si le véhicule fiscal, en l'occurrence, est étranger.
Dans cette hypothèse, a priori, la justice française est compétente, mais elle l'est au titre de sa compétence territoriale. Pourquoi ? Mais parce que le délit de blanchiment de fraude fiscale est réputé commis en France. Alors, une petite explication s'impose. La fraude fiscale, lorsqu'elle est commise au préjudice du trésor public français, est par hypothèse commise en France. En outre, la Cour de cassation juge que le délit de blanchiment de fraude fiscale française est toujours réputé commis en France, même lorsqu'il a été commis à l'étranger.
Donc, dans cette hypothèse, ce sont les impôts français qui ont été fraudés.
Oui, et l'économie réalisée par cette fraude fiscale, qui a été blanchie, a été réalisée en France. Et donc, le blanchiment qui porte sur la fraude fiscale commise en France est, à son tour, réputé commis en France.
Alors, puisque je suis sur l'affaire Jack Lang, encore juste un mot, c'est le parquet national financier qui s'est saisi. Tout le monde a suivi l'actualité. Il y a eu des perquisitions à l'Institut du Monde Arabe, au domicile de Jack Lang. Pourquoi le parquet national financier ? Parce qu'au fond, c'est une personnalité connue parce que c'est Jack Lang ou est-ce qu'il y a d'autres raisons ?
Non, c'est pas parce que c'est une personnalité connue, c'est parce qu'on est au cœur de la compétence matérielle du parquet national financier. Le code de procédure pénale, l'article 705 pour être plus précis, attribue au parquet national financier une compétence nationale et concurrente pour poursuivre le délit de blanchiment de fraude fiscale. On est donc au cœur de sa compétence matérielle.
Alors j'ai pris l'exemple de Jack Lang. Nathalie Bucquet, je pourrais prendre l'exemple de Ebba Carlsson. Elle a 56 ans aujourd'hui. C'est une ancienne mannequin de nationalité suédoise. Elle a annoncé qu'elle elle portait plainte pour traite d'êtres humains et pour un viol qu'elle a subi quand elle avait 20 ans en France, en l'occurrence dans le local piscine d'une propriété de Cannes sur la Côte d'Azur, un viol commis, dit-elle, par un recruteur de mannequins, Daniel Siad, un proche de Jeffrey Epstein. Le parquet français, là encore, est compétent, même si la plaignante est suédoise, c'est bien ça?
Oui, tout à fait, Laurent. C'est le principe de la territorialité, hein, qui est prévu par l'article 113-2, alinéa 1er du Code pénal, qui prévoit que la loi française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République, quelle que soit la nationalité de la victime. Donc oui, en application de ce principe, c'est bien la compétence française. Et juste, je voudrais préciser aussi qu'on a une particularité sur les compétences, notamment celle du parquet de Paris en matière de traite des êtres humains. Puisque là, on a, je vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais comme c'est une infraction qui est qualifiée d'infraction de criminalité organisée, on a des juridictions interrégionales qui sont spécialisées. Et donc, le tribunal judiciaire de Paris intervient dans ce type d'affaires. Ça a notamment été le cas sur des affaires d'exploitation sexuelle de mineurs avec l'Europe de l'Est.
C'est très clair. Alors, juste encore un mot, parce qu'on est sur les concepts juridiques et je crois que c'est important pour comprendre la suite et on va encore une fois prendre le temps de détailler cette affaire. Mais il y a la question de la prescription. Les faits qui sont révélés, qui justifient cette plainte, relèvent d'il y a plus de 30 ans. Et cette jeune femme, elle porte plainte pour un autre viol également contre Gérald Marie, qui était le patron de l'agence de mannequins Elite. Et sa plainte, lorsqu'elle l'avait déposée en 2020, elle avait déjà été classée pour fait prescrit. Est-ce que là, à nouveau, cette plainte, Nathalie Bucquet, risque de subir le même sort, d'être prescrite?
Oui, tout à fait. Vous savez, les lois de la prescription, on s'y perd un petit peu parce que elles sont d'application. Elles reviennent pas en arrière. Si vous voulez, sont pas d'application immédiate. C'est-à-dire que dès lors que la prescription précédente n'est pas acquise, on ne peut pas appliquer une prescription qui est plus longue. Dans le cadre de cette jeune femme, à l'époque où elle subit les faits qu'elle dénonce, la prescription est de 10 ans. Donc, si on applique les règles en vigueur, les faits dont elle se plaint seraient prescrits depuis 2010.
Très bien, mais alors encore une précision, il se trouve qu'elle porte plainte aujourd'hui contre Daniel Siad parce qu'elle dit qu'elle l'a reconnu aujourd'hui et aujourd'hui seulement dans les documents rendus publics par la justice américaine. Est-ce que c'est de nature à modifier le délai de prescription ou pas du tout ?
À mon sens, non.
Thomas Herman.
A priori, non plus. Je voudrais ajouter une précision, parce que la prescription est une dimension très importante dans l'affaire Epstein. La minorité ou la majorité de la victime au moment des faits risque d'avoir une incidence très importante. Je vais donner un exemple très simple. On prend un crime sexuel commis en 2002. S'il est commis sur une majeure, sur une personne majeure au moment des faits, il est prescrit depuis 2012, sauf si des actes d'instruction ou de poursuite ont été pris entre-temps. Si on prend le même crime sexuel commis...
C'est 30 ans après la majorité ?
Pour le crime sexuel commis contre une majeure, à l'époque, c'était...
Non, pour une mineure.
Eh bien, pour une mineure, c'était 20 ans, à compter du jour de son 18e anniversaire. Mais si on fait 2002 plus, donc 20 ans, enfin 18 plus 2, plus ça fait 2022, sauf qu'en 2017, on a la loi de réforme de la prescription de 2017 qui est entrée en vigueur, et comme le délai de prescription n'était pas entièrement écoulé, cette loi de 2017 a allongé le délai de prescription de notre crime commis en 2002,
de 20 à 30 ans.
Qui donc sera prescrit en 2032. Donc vous voyez que le même crime commis le même jour, s'il est commis contre une majeure, a priori il est prescrit, s'il est commis contre une mineure, il ne l'est toujours pas. Donc ça c'est un point très important sur lequel je voulais attirer votre attention.
Alors encore un dernier point, parce que le parquet de Paris précise que dans le cas où il ne serait pas compétent, il s'engage à transmettre l'ensemble des éléments recueillis aux autorités qui, elles, le seraient, pour le coup, compétentes. D'un mot, Thomas Herman, comment ça marche ? Il y a des accords judiciaires entre pays, on transmet tout ce qui a été récolté dans l'enquête à la justice d'un autre pays, tout simplement ?
Oui, c'est ce qu'on appelle la coopération pénale internationale, qui est absolument essentielle, car la criminalité ne s'arrête pas aux frontières. L'entraide judiciaire internationale est régie par des conventions internationales qui peuvent être multilatérales, prises sous l'égide de l'ONU ou du Conseil de l'Europe, ou bilatérales entre deux États. Elle est également régie par des articles du Code de procédure pénale. Tout ça est assez classique. Et il faut ajouter que l'entraide judiciaire internationale est renforcée entre les États membres de l'Union européenne.
Alors, comme une partie de l'enquête se situe évidemment aux États-Unis, l'enquête mère, elle se situe là-bas. On va y revenir parce qu'il y avait eu des demandes d'entraide de la part de la justice vis-à-vis du FBI. Mais d'abord, j'aurais qu'on continue sur la décision de la procureure de Paris. Elle dit qu'au fond, ces deux enquêtes cadres, elle les organise parce qu'elle ne veut pas ralentir, Nathalie Bucquet, la réponse pénale pour les victimes potentielles. Parce qu'il est possible que la publication de ces millions de documents ravive le traumatisme de certaines victimes, qu'elles se fassent connaître alors qu'elles ne l'ont pas fait jusqu'à présent. Vous connaissez bien ce type d'affaires, je le disais, vous êtes l'avocate de l'association Innocence en danger. Ça arrive fréquemment dans ce genre d'affaires que les victimes se fassent connaître très longtemps après les faits ?
Oui, c'est très fréquent, Laurent. J'ai deux exemples qui me viennent à l'esprit. On a l'affaire Le Squarneck, où cette affaire illustre parfaitement ce phénomène, puisque des victimes se sont manifestées très longtemps après les faits, notamment lorsque cette affaire a été médiatisée. Et puis, vous avez également, pour parler aux auditeurs, l'affaire Dino Scala, dit du violeur de la Sambre.
Qui a fait l'objet d'un podcast coup de jury au moment de la parution sur France 2 de la série du même nom Sambre. Effectivement, on avait traité ce cold case.
Voilà, donc c'est vrai que dans ce type d'affaires, c'est assez fréquent, si vous voulez. Une victime, elle peut mettre du temps à parler, elle peut aussi avoir honte, elle peut aussi avoir peur. Donc, dans ce type d'affaires, c'est très fréquent que la médiatisation ou la publication de documents dans ces grandes affaires sexuelles viennent provoquer des signalements ensuite tardifs et puis aussi raviver des traumatismes de victimes et qui, à un moment donné, décident de parler si elles ont le sentiment que l'affaire peut évoluer, si elles ont un sentiment de confiance. Effectivement, elles peuvent, à ce moment-là, décider de parler et d'être très précieuses pour l'avancée de l'enquête.
Et le fait qu'il y ait 5 magistrats désignés, effectivement, ça peut aider les victimes éventuelles à venir témoigner, voire à porter plainte. Alors, je veux qu'on soit précis. À ce jour, le parquet de Paris a été destinataire de 3 signalements distincts. Il y a une plainte pour viol déposée donc par Ebba Carlson, j'en parlais à l'instant, à l'encontre de Daniel Siad. Je n'y reviens pas. Il y a une deuxième plainte pour des fait de harcèlement sexuel commis en 2016, déposé par une autre femme à l'encontre du chef d'orchestre Frédéric Chalin. Et puis, il y a un article 40 déclenché par le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, un signalement indiquant qu'un diplomate français, Fabrice Hédan, figurait dans les documents américains. Je voudrais comprendre, Thomas Herman, qu'il y ait une enquête cadre ou pas, chacune de ces plaintes, chacun de ces signalements fera l'objet d'un traitement judiciaire spécifique et autonome, j'imagine.
Oui, sans aucun doute. En tout cas, il faut l'espérer. Ce qu'on peut quand même d'ores et déjà dire à propos de la plainte pour harcèlement sexuel, c'est que les faits risquent là encore d'être prescrits. Si le harcèlement a bien été commis en 2016 et qu'aucun acte de poursuite n'est intervenu depuis, malheureusement, on risque encore de se confronter à la prescription, puisqu'il s'agit d'un délit qui se prescrit normalement 2016 plus 6, ça fait 2022.
Bon, vous avez été très clairs tous les deux, Nathalie Bucquet, Thomas Herman. On a fixé le cadre juridique de ces enquêtes. Maintenant, on va prendre chacune de ces affaires pour en comprendre toutes les implications judiciaires. C'est la deuxième partie de Quid Juris.
Affaire Epstein, la justice en première ligne, Quid Juris, Laurent Neumann.
Le parquet a aussi décidé de procéder à une réanalyse intégrale du dossier d'instruction. C'est pas moi qui le dis, c'est la procureure de Paris. Et de quel dossier parle-t-on ? Celui concernant l'ex-agent de mannequin Jean-Luc Brunel, lui aussi mort en détention en 2022. Et là encore, la mort de Brunel a éteint l'action publique et a conduit à la clôture de l'enquête préliminaire qui avait été ouverte le 23 août 2019 par la section des mineurs du parquet de Paris. Et là, j'ai besoin de vos lumières à tous les deux. Cette enquête, elle avait été ouverte sur la base d'un signalement, notamment de l'association Innocence en danger. Un signalement qui datait de juillet 2019. Vous en êtes l'avocate, Nathalie Bucquet. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler de façon synthétique sur quoi portait précisément ce signalement ?
Alors, si vous voulez, Courant juillet 2019, la présidente de l'association Innocence en danger, Omera Seyé, a été contactée par une journaliste américaine d'investigation indépendante qui lui affirme qu'au terme de nombreuses années d'investigation sur M. Epstein, il existerait plusieurs pistes qui mettraient en relation Jeffrey Epstein avec la France. Cette même journaliste donc lui évoque des relations entretenues par M. Epstein avec des Français, notamment dont des noms apparaîtraient dans un black book, qui est une sorte de répertoire de contacts intitulé « Message Paris ». Et donc, lorsqu'elle est informée que M. Epstein a séjourné plusieurs jours avant son arrestation le 6 juillet à New York, elle contacte notre présidente, étant persuadée que si M. Epstein a résidé de manière significative en France, il a pu commettre des infractions de nature sexuelle, notamment sur mineurs, en France. Et à l'époque, on avait une antenne d'Innocence en danger en Amérique. C'est la raison pour laquelle Omera Seyé était connue. Fort de ces éléments, Omera Seyé a décidé, donc sous l'égide de l'article 40, de faire un signalement auprès du parquet de Paris, portant à la connaissance du procureur de la République les chefs d'inculpation concernant M. Epstein et la nécessité, la forte probabilité, que M. Epstein, qui avait un appartement en France et à Paris, ait pu commettre des infractions en France. Et notamment, elle évoque une victime américaine qui aurait affirmé avoir beaucoup voyagé avec M. Epstein et qu'elle avait été son esclave sexuelle, notamment à Paris.
Alors, c'est très bien, vous avez parfaitement résumé les faits. J'avance, il y a une perquisition qui a lieu quelques semaines plus tard, au mois de septembre 2019, au fameux domicile parisien de Jeffrey Epstein, c'est avenue Foch, 800 mètres carrés. Ont été saisies ce jour-là des photos de jeunes filles dévêtues, des vidéos, une trentaine, un CD-ROM, dans lequel figure un fichier de 62 noms de jeunes femmes. C'est scellé, la procureure de Paris dit qu'elle les réintègre dans l'enquête pour les réanalyser. Ça veut dire quoi concrètement, Nathalie Bucquet? Ça veut dire que tout ce qui a été figé au moment où cette enquête a été clôturée peut de nouveau être exploité tant par la police judiciaire que par la justice?
C'est tout à fait ça, Laurent. Et effectivement, cette procédure est aujourd'hui au service des archives. Nous en avons d'ailleurs nous-mêmes demandé la copie au parquet de Paris. Donc effectivement, dès lors qu'un non-lieu n'est pas une clôture définitive, une procédure peut toujours être réouverte. Ça peut être quelque chose de temporaire. La justice conserve les éléments et dès lors, il est fort à penser que aujourd'hui, ces éléments issus de la procédure 2019 sont actuellement à l'étude par les magistrats, dont a parlé la procureure de Paris.
Donc il y a les trois signalements et les nouvelles plaintes, il y a tous ces nouveaux documents, mais il y a aussi cette enquête qui était restée figée et qui d'une certaine manière est en train de redémarrer. Alors dans cette enquête de 2019, Jean-Luc Brunel était le seul mis en examen, il se voyait notamment reprocher un viol commis dans les années 80, et pour expliquer la réouverture du dossier, le parquet note aujourd'hui que les enquêteurs ont synthétisé des auditions issues d'une procédure américaine, et ça confirme ce que vous nous disiez à l'instant Nathalie Bucquet, en relevant que Jean-Luc Brunel était un ami proche de Jeffrey Epstein, qu'il offrait des emplois de mannequin à des jeunes filles pauvres, qu'il s'était livré à des actes sexuels avec des jeunes filles mineures aux États-Unis, dans les îles Vierges américaines, mais aussi à Paris et notamment dans le sud de la France. Donc si je comprends bien, il y a peut-être des complices, Thomas Herman, dont on ignore l'identité aujourd'hui, et même des victimes qui ne se sont peut-être pas encore fait connaître.
Oui, il y a peut-être des complices, peut-être des co-auteurs dont on ignore encore l'identité, et c'est l'étude des Epstein Files, des documents qui viennent d'être publiés par le département de la justice américain, qui permettra de répondre à la question que vous posez.
Mais alors, la question que je me pose, je vous la pose d'ailleurs à tous les deux, je pense que je ne suis pas la seule à me la poser, comment se fait-il que la justice française n'ait pas poursuivi l'enquête sur des proches d'Epstein? Je pense notamment à Daniel Sciad, alors que des courriels prouvent que, pour prendre son seul exemple, il avait fourni à Epstein des jeunes filles de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Pourquoi tout s'est arrêté à la mort de Jean-Luc Brunel?
Alors, moi, c'est vrai que c'est une grande interrogation dans ce dossier. Si on s'en tient strictement à une réponse juridique, effectivement, le juge d'instruction, il est saisi une REM. Donc, il enquête sur le domaine que lui est transmis par le parquet. Et donc, au décès de M. Brunel, qui avait été mis en examen dans cette procédure, lorsqu'il décède, c'est une extinction de l'action publique. Ce qu'on se demande, c'est pourquoi, à ce moment-là, le ministère public n'a pas pris un réquisitoire supplétif pour permettre aux juges d'instruction de rester saisis et éventuellement d'identifier d'autres auteurs que celui qui avait été identifié, en l'occurrence M. Brunel, qui est décédé.
Thomas Herman, vous avez une explication ? Pourquoi pas de réquisitoire supplétif ?
Non, je n'ai pas d'explication précise sur ce point, mais c'est vrai que le juge d'instruction étant saisi in rem, le juge d'instruction pouvait de lui-même continuer à instruire sur les faits dénoncés.
Malgré l'extinction de l'action publique.
Extinction de l'action publique contre une personne.
Jean-Luc Brunel.
Mais comme le juge d'instruction est saisi de faits, il peut instruire sur des faits impliquant d'autres personnes.
Alors, c'est très clair, je veux continuer à tirer le fil avec vous. Le 8 juillet 2020, le parquet de Paris adresse une demande d'entraide pénale internationale aux États-Unis. Cette demande évoque d'éventuels crimes commis sur le sol français par Jeffrey Epstein et Jean-Luc Brunel, soupçonnés d'avoir participé donc au réseau prostitutionnel du milliardaire, comme pourvoyeur de filles. La police française a notamment mis la main sur la boîte mail de Jeffrey Epstein, deux ordinateurs, des clés USB. En pareil cas, on a envie de comprendre, le FBI et le département américain de la justice sont tenus de répondre à une demande d'entraide judiciaire envoyée, adressée par la France ?
En principe, oui. La France et les États-Unis d'Amérique sont liés par un traité d'entraide judiciaire en matière pénale qui a été signé à Paris le 10 décembre 1998. Et l'article 1er de ce traité prévoit que les États contractants, donc la France et les États-Unis, s'engagent à s'accorder mutuellement l'entraide la plus large possible dans toute enquête ou procédure visant des infractions pénales. Voilà le cadre juridique. À l'intérieur de ce cadre, pourquoi le FBI et le département américain de la justice n'ont pas répondu favorablement à la demande du parquet de Paris ? Ça, je ne peux pas répondre.
Oui, parce que vous m'amenez la question suivante, c'est que on critique beaucoup Donald Trump, ses proches, on sent bien que la justice américaine est au frein à main sur cette affaire. On a vu à quel point il avait été difficile de rendre public ces 3 millions de documents qui auraient dû être rendus publics d'ailleurs à la fin de l'année et qu'ils ne l'ont été que 4 ou 5 semaines plus tard, mais on a l'impression qu'en réalité, ce frein à main, il était déjà mis avant même que Donald Trump redevienne président des États-Unis, comme si au fond, cette affaire embarrassait tout le monde, démocrates et républicains mêlés en l'occurrence.
Oui, c'est le sentiment qu'on peut avoir, surtout si on se rappelle qu'en 2005, des premières plaintes se sont déposées et Jeffrey Epstein bénéficie d'un accord de non-poursuite en 2007 ou 2008, si ma mémoire est bonne. Et à ce moment-là, il est condamné, il est condamné à une peine légère de 13 mois d'emprisonnement par un procureur pour sollicitation de prostitution de mineurs. Et la procédure s'arrête là. Et c'est vrai que, rétrospectivement, on peut s'interroger sur les raisons pour lesquels on n'est pas allé plus loin et on n'a pas tapé plus fort en 2007, en 2008.
Oui, notamment parce que Nathalie Bucquet, on le sait maintenant depuis quelques jours, notamment à la faveur de la publication de ces documents, l'été dernier, il y a une liste qui a été produite par le FBI avec toute une liste de gens qui sont susceptibles d'être coupables d'infractions. Et dans cette liste de gens, il y en a 11, on trouve des gens aussi célèbres que l'actuel président des États-Unis, Bill Clinton, le patron d'un fonds financier extrêmement connu, le patron d'une grande entreprise. Donc, on s'étonne que tout ça soit resté lettre morte et que la justice n'ait pas avancé.
Alors, il faut rester très prudent avec ces listes, avec ces noms qui apparaissent. Ça n'est pas parce qu'un nom apparaît dans les dossiers Epstein que la personne est impliquée. Mais c'est vrai que, déjà, contre le principal intéressé, contre Jeffrey Epstein, on aurait pu être beaucoup plus dur dès 2007-2008, aux États-Unis.
Mais même en France, d'ailleurs.
Non, vous avez raison. Pourquoi dites-vous même en France ? Parce que vous avez l'impression que là aussi, on a été trop lent ?
Si vous voulez, on sait que Epstein séjournait régulièrement en France. On sait qu'il disposait de comptes aussi bancaires dans des banques françaises. À partir du moment où sa première condamnation est connue, puisqu'il y a eu beaucoup de reportages qui ont été effectués, etc., on peut s'interroger sur le fait qu'il ait pu séjourner de manière aussi libre en France, alors qu'a priori, il apparaissait aussi sur un fichier de délinquants sexuels dangereux, en tout cas aux États-Unis. Et on sait que la plupart de ses connaissances, la plupart de ses contacts avaient connaissance de sa condamnation et notamment lui avaient rendu visite après son séjour en détention. Donc c'est vrai qu'on peut s'interroger, de se demander comment M. Epstein a pu voilà, passer entre les mailles du filet pendant autant d'années après avoir été condamné aux États-Unis, même s'il a bénéficié d'un accord très favorable.
Alors, on va évidemment suivre les développements parce que on est qu'au tout début de l'ouverture de ces deux enquêtes cadres. On va voir si notamment l'association dont vous êtes l'avocate, Nathalie Bucquet, Innocence en danger, recueille de nouveaux témoignages, de nouvelles plaintes. On va voir si ces magistrats recueillent la parole de nouvelles victimes potentielles. Mais je voudrais qu'on dise un mot quand même de cet article 40 qui a été déclenché par Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, à propos de Fabrice Hédan, un diplomate français qui opérait à l'ONU, qui était cité dans les millions de documents qui ont été rendus publics. Il a aussi lancé une enquête administrative. Comment ça marche d'ailleurs en parallèle, Thomas Herman, à la fois l'enquête judiciaire, l'article 40, et puis l'enquête administrative, peut-être une procédure disciplinaire, les deux fonctionnent de façon parallèle ?
De façon parallèle, normalement indépendante, mais bien souvent au niveau disciplinaire, on prend les devants et on suspend la personne lorsque il existe des indices graves et concordants, même si cette notion n'est pas mobilisée sur le plan administratif. La présomption d'innocence demeure au plan pénal, évidemment, mais on n'attend pas une condamnation définitive pour suspendre une personne de ses fonctions.
Non, mais parce que ce qui frappe dans cette affaire, c'est que Fabrice Hédan était soupçonné par le FBI d'avoir consulté des sites pédopornographiques au siège de l'ONU en 2013. Il est soupçonné aussi d'avoir transmis des documents confidentiels à Jeffrey Epstein. Son nom apparaît plus de 200 fois dans des échanges avec le pédocriminel américain. On sait qu'il a été renvoyé des États-Unis en France par l'ambassadeur de France auprès de l'ONU de l'époque. On se demande s'il y a eu un suivi de cette affaire. A priori, non. S'il y a eu une sanction disciplinaire, jusqu'à aujourd'hui, non. Et si la justice a été saisie, et a priori, la réponse est non. Et là aussi, ça peut paraître étonnant.
Oui, c'est très étonnant et on peut s'interroger, effectivement.
Nathalie Bucquet, ça rentre dans le périmètre des affaires que vous suivez ou c'est à côté?
Alors,
pour vous?
Tout à fait, mais dans le cadre justement de Monsieur Hédan, là où vraiment il y a une interrogation et une incompréhension totale, c'est que des informations ont été portées à la connaissance de la justice française. C'est une enquête journalistique aussi qui révèle que Monsieur Hédan a été directement mis en cause dans une procédure qui avait été ouverte auprès de la Brigade de protection des mineurs, dans lequel, a priori, il n'aurait pas été directement entendu, qui aurait été classé sans suite. Donc aujourd'hui, moi, la question que je me pose, c'est justement dans le cadre de cette procédure, est-ce que notre justice française avait sollicité la transmission de l'enquête effectuée par le FBI, puisqu'on parle d'une enquête qui comprendrait plus de 200 pages, qui mettrait en exergue le fait qu'il aurait consulté des images pédopornographiques. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a une vraie question de se demander comment M. Hédan n'a pas pu être poursuivi pour la consultation d'images pédopornographiques, qui, je le rappelle, est un délit. Et donc c'est vrai que c'est une incompréhension totale.
Alors, encore une question, parce que vous avez vu que parallèlement, et on vient de voir les affaires judiciaires, les plaintes, les signalements, dans le cadre de ce diplomate, une procédure disciplinaire. Et puis, il y a la partie politique aussi. Il faut quand même qu'on en dise un mot pour conclure notre échange. Le groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale réclame une commission d'enquête parlementaire. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, est contre. Elle ne veut pas, dit-elle, gêner le travail de la justice. Je vous pose la question à tous les deux, peut-être Thomas Herman pour commencer. Est-ce que c'est une bonne idée, dans ce cadre-là, une enquête parlementaire ?
Ça ne me paraît pas être une très bonne idée, non. Effectivement, l'une des conditions requises par le règlement de l'Assemblée pour créer une commission d'enquête parlementaire, d'abord, ne me paraît pas être remplie. Cette condition, c'est que la commission d'enquête parlementaire ne doit pas empiéter sur des faits qui donnent lieu à des poursuites judiciaires. Or, il est clair que l'affaire Epstein...
Mais je vous interromps sur ce critère-là. Il est arrivé par le passé que des enquêtes parlementaires soient créées alors qu'il y avait des enquêtes judiciaires. Je pense par exemple à l'affaire Benalla. C'est déjà arrivé par le passé.
Et M. Benalla a passé tout le temps de son audition à répondre à chacune des questions qui lui étaient posées, qu'il réservait ses réponses au juge d'instruction. Donc, on a bien vu ce que ça pouvait donner. L'affaire Epstein est une affaire judiciaire, même si elle implique des personnalités politiques. Et puis, qu'est-ce que ça voudrait dire une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Epstein ? On a donc des députés et des sénateurs qui vont éplucher les 3 millions de pièces des Epstein Files. Et pour arriver à quelle conclusion ? Non, en France, ce sont les juges, les procureurs, les juges d'instruction et les juges qui doivent enquêter, instruire et condamner les auteurs d'infractions pénales. Ce n'est pas le rôle d'une commission d'enquête parlementaire, me semble-t-il.
Nathalie Bucquet, vous êtes de cet avis. L'affaire est déjà suffisamment compliquée pour qu'on ait en plus une commission d'enquête parlementaire. Ou est-ce qu'au fond, cette commission d'enquête, elle pourrait être utile pour voir s'il n'y aurait pas eu par hasard dans les services de justice, dans les services de l'administration de l'État, des failles qui font que quelques années après les faits, on n'a pas vraiment avancé sur ces histoires?
Alors, si vous voulez, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Thomas. En revanche, je partage aussi ce que vous venez de dire dans votre question, quelque part. C'est de dire que ça pourrait être pertinent et juridiquement défendable si on était cantonné à une commission d'enquête sur le traitement de cette affaire judiciaire en 2019, notamment pour voir s'il y a eu des défaillances, de savoir si les éléments d'information recueillis étaient suffisants, si la coopération internationale avait bien fonctionné. Mais effectivement, il faudrait dans ce cas-là vraiment cantonner à cette affaire de 2019, si vous voulez, jusqu'à l'ordonnance de non-lieu prononcée dans l'affaire Brunel, là, pour voir si on n'a pas eu effectivement une défaillance de nos services dans le traitement de cette enquête. Mais à l'instant T, je partage totalement ce qui a été évoqué un peu plus tôt. On a besoin d'une enquête pénale pour pouvoir entendre, sanctionner, poursuivre et éventuellement juger.
Juste un dernier mot, et ce sera vraiment le mot de la fin, Nathalie Bucquet. À l'heure où on se parle, l'association dont vous défendez les droits, Innocence en danger, a recueilli de nouveaux témoignages, de nouvelles plaintes depuis la mise sur la place publique de ces millions de documents et le lancement, l'ouverture de ces deux enquêtes cadres par le parquet de Paris?
Oui, alors nous trouvons donc des témoignages de victimes directes ou de témoins, et notamment depuis l'appel à témoignages que nous avons lancé pas plus tard qu'hier, parce que nous avons eu connaissance d'un certain nombre de témoignages par intermédiaire qui nous disent avoir peur de parler, peur d'être prise dans ce flux un peu médiatique et judiciaire, et donc ont besoin d'un espace de parole sécurisé. Et c'est ça que nous offrons aujourd'hui.
Peur aussi de la prescription?
Non, ce n'est pas un sujet qui les préoccupe. Aujourd'hui, les victimes, les personnes qui ont pu prendre contact avec nous, c'est une volonté vraiment de participer à la révélation de la vérité et que l'ensemble des protagonistes qui ont côtoyé M. Epstein de près ou de loin puissent aussi répondre de leurs actes ou en tout cas être entendus et s'expliquent sur ce dont ils avaient connaissance.
Et donc ces témoignages ou signalements, ou pourquoi pas plainte, évidemment, vous serez l'intermédiaire pour les transmettre au parquet de Paris qui gère désormais ces enquêtes.
Alors moi, je suis tenue au secret professionnel. Maintenant, mon travail, c'est d'effectivement rassurer les personnes avec lesquelles je peux être en contact pour leur dire qu'on a besoin de leurs témoignages. Ce qui peut se passer, avant tout, c'est les rassurer justement pour s'orienter ensuite vers les autorités judiciaires françaises.
Merci à tous les deux, Nathalie Bucquet, Thomas Herman. Je vous rappellerai, parce que cette histoire, elle va évidemment continuer. On le disait, l'affaire Epstein, c'est une affaire absolument tentaculaire. Mais Quid Juris, c'est fini pour aujourd'hui. Merci encore une fois à tous les deux d'être venus répondre à nos questions. Je vous rappelle que ce podcast Quid Juris est disponible sur la plateforme de notre partenaire BFM et sur les plateformes de streaming et bien sûr sur le site du Club des Juristes. Moi, je vous dis à très vite pour le 100e numéro de Quid Juris. Avec, je vous le dis déjà, une grosse surprise et un invité de marque. Bonne semaine à tous.